Amis de Radio Silence, bonjour. Je suis Élise Mock. Je fais cette émission depuis Yaoundé, au Cameroun. Vous écoutez Flash sur le monde. Bien. Les élections au Cameroun deviennent, comment dirais-je, kafkaïennes, si on peut le dire. Parce qu'on a voté ici le dimanche 7 octobre. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais plus quand, c'est le jeudi 18 octobre, au moment où j'enregistre cette émission, ça fait 11 jours environ. D'après la Constitution ou la législation, les résultats sont proclamés dans un délai de 15 jours. Donc on a jusqu'au 22 pour avoir les résultats par le Conseil constitutionnel. Mais il y a eu un coup de théâtre. Coup de théâtre, l'opposant M. Kamto est sorti dès le lundi 8 octobre pour déclarer sa victoire tout seul et demander au chef de l'État de lui remettre les clés de la maison, les clés du pays, de la nation, un peu comme une passation de service, sorte d'ultimatum. Hein, ultimatum, j'ai gagné, et j'exige là que le président recourt à une passation de service en bonne et due forme. C'était vraiment surréaliste de voir que dès le lendemain matin, vous savez, l'élection, c'est toute la journée du dimanche, et puis dès le lendemain matin, il y a un candidat qui se présente, je fais une conférence de presse, oui, d'après les premiers procès-verbaux que j'ai vus, je suis victorieux pratiquement par, il a dit quoi, par pénalité, c'est cela la métaphore. C'est la métaphore utilisée pour dire qu'il a marqué le but, parce qu'ici au Cameroun, l'atmosphère est empreinte d'une certaine vulgarité, d'un langage facile qui est assez étonnant parce que il a adopté, y compris par les enseignants, hein, parce que M. Kamto, c'est un universitaire, un juriste, et entre ce juriste et le reste du peuple, vous allez avoir des phrases comme le chassement, qui veut dire chasser le président Biya. Des phrases comme « je n'ai pas pu faire sauf que faire ceci », un français assez alambiqué comme ça, ça fait partie du roman populaire. J'ai oublié de vous dire, c'est même pas une grippe, je suis tombé dans le piège des tropiques, je fais un paludisme depuis 2 semaines, c'est terrible. Je ne me souviens plus d'en avoir fait, même quand j'étais enfant ici au Cameroun. Ça fait tellement longtemps, mais je vous assure, le paludisme, ça vous tue, ça vous casse. Heureusement, il y a une bonne prise en charge. Hein. J'ai déjà eu une perfusion pour remonter un peu, et, parce que j'étais boursouflé carrément du visage. Là, et je suis sous cachet qui m'assomme un petit peu. Bon, ça va, à part ça, ça va. Je vais pas dire que je vais bien, j'ai toujours le vertige, mais ça peut aller et il fallait que je fasse ce flash parce que à partir d'aujourd'hui, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Donc notre opposant universitaire a fait dans la déclaration de sa victoire. Et bien sûr, vous vous en doutez, quel émoi dès le lendemain. Il y a un problème avec le Cameroun, c'est que autant on peut dire que 2 semaines, c'est peut-être beaucoup, parce que maintenant on a toute cette technologie qui est là, encore que les opérateurs sont occidentaux, et ici les occidentaux sont soupçonnés, comme en ce moment, d'être derrière le professeur M. Kamto, c'est ainsi qu'on l'appelle, parce qu'il a passé une carrière d'universitaire, hein, et il est là... selon les canons de l'administration, il serait plutôt proche de la retraite, il a 65 ans. Ça ne veut pas dire inactivité, hein, ça veut dire retraité de la fonction publique. Bien, il y a quand même un souci, c'est trop long. Et mais ça peut pas être déclaré le lendemain, c'est pas possible parce que ici il y a des villages reculés très loin parce qu'il faut collecter tout cela parce que ce n'est pas vrai, il est impossible. D'abord Monsieur Camteau, parce que je suis désolé là. Lorsque j'ai fait un premier flash sur cette présidentielle, j'avais dit que le tribalisme n'apparaissait pas parce qu'on avait effectivement des croisements vertigineux comme ça, des Bassa qui soutenaient des Bamiléké qui soutenaient des Bétis qui soutenaient des candidats du Nord. C'était vraiment, ça donnait cette impression dans les réseaux sociaux de quelque chose qu'on avait dépassé. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est tapi dans le découpage régional. On ne peut pas faire autrement que de... Voilà, les gens sont regroupés en ethnies. Hein. Et donc, quand vous faites un découpage régional, l'ethnicité vous rattrape par derrière et vous finissez par conforter le tribalisme malgré vous par cette régionalisation qui est pourtant une bonne chose. Hein. On a vu ailleurs, c'est vers certains, il y avait le débat, souhaitaient le fédéralisme, d'autres la décentralisation à la française. Mais dans tous les cas, il y a un gros risque parce que si on s'oriente vers l'autonomie des régions tribalisées, parce que les frontières régionales coïncident avec les fonctions tribales, ça devient effectivement un casse-tête chinois. Le casse-tête chinois est donc arrivé avec M. Camteau qui dit que dans le littoral, il a beaucoup de voix. Le littoral, c'est Douala, Côtière, vous savez, la zone économique où les Bamiléké, parce que M. Camteau est d'origine Bamiléké, sont en puissance. En gros, les Bamiléké sont dans les grandes villes parce qu'ils ont la puissance économique au Cameroun. Et donc, dans les grandes villes, il y aurait quelque chose comme un phénomène, si on peut l'appeler Camteau. Mais ça, c'est pas parce que c'est tellement lui, mais c'est parce que ça rejoint cette mouvance qu'on a vue où les gens se regroupent entre eux et les Bamiléké, quand ils arrivent toujours en groupe. Forcément, là où ils ont tendance à être plus nombreux que même les originaires du territoire, c'est vous dire. Du coup, ayant vu les résultats du littoral, ils sont très nombreux. Hein, voilà, oui, voilà, on a gagné. Mais ça ne veut rien dire parce que dans la sociologie ou la démographie camerounaise, il y a le nord, le grand nord, il y a l'extrême nord, il y a toute la région de l'est. Il y a la région qu'on appelle du centre près des Bétis, et puis enfin plutôt du sud, et il y a la région du centre où ce serait plutôt les Bassa, et il y a la région de l'ouest où ce serait les Bamiléké et les anglophones, et qui sont la même chose d'ailleurs, et puis les Bamoun, et il y a une autre région qui s'appelle le littoral où il y aurait des Douala et tous ceux qui viennent majoritairement de l'ouest pour y faire fortune, on va dire comme cela. Donc vous pouvez être majoritaire dans le littoral, mais lorsqu'on regarde la démographie, la région du président Biya, le sud, est extrêmement peuplée, le centre-sud, tout aussi peuplée que la région du littoral, sinon plus. Quand on regarde le centre lui-même ici, Yaoundé et les Bassa, ce sont des gens qui ont plus voté par affinité pour Béti, parce qu'il y a aussi une histoire hein, des tribus. Il faudrait remonter dans cette histoire-là pour voir que un Bassa est plus enclin à voter pour un Béti qu'est Monsieur Paul Biya, ou alors à voter pour Monsieur Cabral Libi qui était un Bassa, que pour un Bamiléké qui est quelque chose de culturellement éloigné par rapport à un Bassa. Pour le Béti, ce sera à peu près pareil, même si il y avait des Bétis, des Bassa, c'est ce que je vous disais, dans le staff du Bamiléké, Monsieur Camteau. Donc le fait tribal, il est vraiment revenu violemment comme ça, on l'avait sous-estimé, mais la régionalisation l'a en quelque sorte exacerbé, malgré elle. Et on a le souci, on a le problème qui traîne. Donc, Monsieur Camteau, même s'il a eu des premiers PV, ne peut pas venir et dire j'ai gagné le lendemain à 10 h de l'émission, de l'élection. Ce n'est tout simplement pas possible. Matériellement, impossible. Juridiquement aussi, alors là, c'est notre souci dans lequel nous allons tomber. Mais pour finir avec le découpage géographique et territorial, il faut savoir que l'Afrique, c'est pas l'Europe, hein. On a encore des villages très reculés, des cantons, des districts, tout cela, il faut aller au fin fond, des petits bureaux de vote où tout le monde a voté. Bon, c'est vrai que c'est l'arrondissement qui regroupe tout cela. Mais il y a environ, je crois, 350 arrondissements. Bon, le calcul n'est pas aussi simple. D'autant que juridiquement, c'est vrai, on peut envoyer les résultats par les moyens technologiques, les premiers résultats. Mais il faut quand même que les originaux arrivent, des PV signés par les gens. C'est la loi, c'est le droit. Il faut qu'on ait l'original du procès-verbal. Bien. Mais laissons tomber cela. Et allons-y alors au juridique, juridique. Juridiquement, c'est le Conseil constitutionnel, comme partout ailleurs, qui déclare les résultats. Et donc, M. Camteau, déjà, il n'a pas respecté la loi en la matière. Ce qui est extraordinaire pour un juriste, le juriste qu'il est. S'il y a quelqu'un qui devait être exemplaire en la situation, d'ailleurs, on note que derrière M. Camteau, vous avez un aréopage d'universitaire. Doublé d'un aréopage d'avocats. Des juristes universitaires ou alors des juristes civils. Ouf, on ne sait pas c'est quoi cette coalition, mais toujours est-il dit que c'est cela. Et ayant commis cette première faute, ça jetait un trouble, parce que c'est ça qu'il visait un peu. Il y a un trouble. On se dit, bah alors maintenant, est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas gagné? C'est vrai que les avis sont partagés, oui, mais puis il a gagné. Pourquoi les avis sont partagés? Parce qu'au-delà du juridique, il y a tout l'aspect sociétal. Il y a le bilan du président Biya qui le rattrape par derrière. C'est un bilan assez. Ah, comment dirais-je? Il est dédoublé, ce bilan-là. Sur le plan de la prospective, de la projection du pays vers un avenir, il est fort. Mais sur le plan de la vie quotidienne des gens au jour le jour, avec en prise avec le blocage et le verrouillage institutionnel, il y a un souci. Il y a un souci, et donc les gens, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Eux, ils sont là, pris par aujourd'hui et maintenant. Il faut manger, il faut envoyer son enfant à l'école, il faut payer son loyer, il faut se déplacer. Bon, il faut vivre, il faut organiser l'avenir. Et c'est vrai, les Camerounais ne voient pas, enfin, je parle des Camerounais qui n'ont rien ou qui sont démunis, ils ne voient pas très bien le bout du tunnel dans cette affaire. C'est-à-dire que. Quand vous avez besoin, vos droits citoyens sont piétinés par les institutions, vous allez faire une carte nationale d'identité, vous allez souffrir le martyr parce qu'on vous demande un acte de naissance, vous allez réclamer votre acte de naissance là où vous êtes né, on ne vous le donnera pas, on vous envoie dans une procédure alambiquée, des choses qui sont automatiques en France. Et puis vous tournez en rond, ça peut durer 2, 3 mois, sans qu'on vous explique exactement pourquoi il y en a qui abandonnent. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de candidats, pardon, d'électeurs d'un monsieur comme Libi, qui était jeune, ben, qui n'avait tout simplement pas de carte d'électeur, parce que le parcours du combattant de la carte nationale d'identité, qui est un droit fondamental, on leur vend. On les traîne, on les embrouille, on parle des certificats de nationalité. Non, mais mon Dieu, vous êtes né là, oui ou non? Si vous êtes né là, qu'on vous donne votre acte de naissance et puis basta. Non, allez voir le tribunal qui pourrait éventuellement nous demander de faire des fouilles pour savoir si vous êtes né ici et après aller prendre un certificat de nationalité après que vous ayez reçu, si on vous le donne, votre acte de naissance, un duplicata. Non, c'est, non. Les gens sont fatigués de tout cela. Et. Vous voulez, vous sortez de l'école. Il y a des exemples, il y en a pléthore. Déjà pour vous loger, on va essayer de les d'en dérouler 3 ou 4 qui sont très significatifs. Dans les exemples, le parcours du combattant avec les administrations au quotidien est terrible. Vous sortez de l'école comme enseignant. Vous allez attendre, vous ne savez pas sur quelle base on embauche certains comme parents, je ne sais pas comment on appelle ça, parents d'élèves. On vous paye 25 000 francs par mois. Vous faites quoi avec ça? Je ne sais pas si c'est le SMIC camerounais. Vous payez à peine votre loyer ou vos frais de déplacement pour aller à l'établissement scolaire. 25 000 francs, c'est même pas 50 euros. Vous sortez l'école, ils en sortent comme ça, ils en font beaucoup. Ces gens-là n'ont pas de poste. C'est la même chose en France, mais ici, c'est carrément pire, c'est le désastre. Ça va alimenter directement le chômage. À quoi sert-il de faire des formations si c'est pour que les gens aillent au chômage? Ça sert à rien, il faut revoir tout cela, ce système scolaire. Et ce système scolaire, c'est aussi l'université qui est concernée. Monsieur le professeur Camteau qui arrive aujourd'hui, qui se découvre politicien alors qu'il y a eu un échec patent dans l'organisation, le redéploiement de la formation universitaire, en la décentralisant, mais aussi en essayant de réfléchir à quelque chose de plus fondamental, c'est qu'on ne peut pas tous être au Cameroun des fonctionnaires. On ne peut pas tous être des hauts diplômés. Au demeurant, lesquels diplômés, puisqu'ils sont mal diplômés, lorsque on leur donne des fonctions, n'y arrivent pas parce qu'ils font le blocage. On ne peut pas tous être cela. Le Cameroun est en phase de développement. C'est le modèle allemand de formation qui lui convient. On a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs sur le terrain. Il faut qu'ils construisent les routes, il faut qu'ils construisent les ponts, il faut qu'ils pense l'urbanisation non seulement de la ville, mais des villages et de toute l'Afrique. Il faut que l'électricité marche. Ça ne marche jamais dès le premier éclair, le premier tonnerre. L'électricité coupe. Il faut que l'eau soit là. Vous vous rendez compte, dans les villages, apparemment, les arrondissements, les communes, on ne sait plus qui gère ça, se sont endettés. Dans mon village, Boutmakak arrondissement, un arrondissement qui existe. Les premiers arrondissements camerounais. Mis en place par les Allemands. C'est pour vous dire, avant les Français, sinistrés totalement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau courante. Ils ont commencé un truc, ils ont dessiné, ils ont pris des crayons, on ne sait plus où, voilà, de l'étranger forcément. Et là, toutes les installations sont là, mais elles ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'eau courante. Mais bon sang, pourquoi? On ne sait pas où passer l'argent, la technique elle est approximative. Vous voyez deux ou trois personnes, ce n'est pas des ingénieurs qui se débrouillent à faire ça, du bricolage. L'eau courante n'est toujours pas là. Or, si l'eau coule, ben, les gens paieront et on paiera les crédits. C'est toute cette dynamique-là, élémentaire pratiquement, on ne peut même plus appeler ça le développement, c'est l'urbanisation tout simplement. Ça ne marche pas au Cameroun, on ne comprend pas pourquoi. Alors les gens vont toujours dans ces pompes-là qu'on leur a données, si puis par les ONG pour toujours le misérabilisme, porter l'eau sur la tête, mais où va-t-on, les fonctionnaires, etc. C'est à perdre son latin parce qu'au lieu de former les gens qu'il faut, on vous forme des pseudo-députés, des licenciés, tout ça, ça ne sert à rien parce qu'ils finissent où? Ben maintenant, ils conduisent les motos, ils font du taxi, de moto-taxi, beaucoup, parce que, il faut bien trouver comment vivre. Beaucoup sont assis là à la rue à vendre ce qu'ils peuvent. Il n'y a plus de trottoirs pratiquement dans les grandes villes parce que tous les trottoirs sont envahis par le commerce. Chacun essaye de faire ce qu'il veut, il peut vendre, il se place là où il veut, on se place où? Comme on n'a pas d'argent, on se place sur les trottoirs. Alors, M. Camteau, il n'a déjà pas de bilan universitaire, mais il se prévoit, je veux dire, il est politicien. C'est absolument hallucinant. Un pays où les gens n'ont pas de bilan et ils se présentent pour faire de la politique, parce que la politique, c'est devenu un vaste chantier de mercenaires, excusez-moi. Et des exemples, je vous en donne encore deux pour finir, je ne reviens plus en avoir trois. Hier, à la télévision, ici, nationale, des artistes sont allés voilà, manifester devant la télévision nationale pour demander leurs droits d'auteur. Apparemment, ces droits d'auteur, il y a eu des séances et des séances. Il faut savoir qu'en Afrique, l'artiste, c'est vraiment un pauvre. On pirate ses CD, on les vend là aussi, sur tout le monde et personne ne dit rien. Tout le monde le voit. Les gars, ils vivent pas. Après, forcément, il y a même plus l'inspiration parce que la passion retombe à force d'être confronté aux difficultés de la vie quotidienne qu'on ne devrait plus avoir alors qu'on en fait, on apporte de la joie et du plaisir aux gens, des choses qui n'ont pas de prix. Alors, il y a eu des réunions, c'est ce qu'on a appris de leur bouche parce qu'on leur a demandé. Et ils ont dit, mais il y a eu des réunions. Nous devrions avoir des milliards parce que ça fait des années qu'ils passent nos musiques, ils ne nous payent jamais rien. Et on est quand même tombé sur des millions. Et jusque-là, le directeur général de la télévision, qui est, je ne vais pas dire un apparatchik, mais c'est son tour. Vous avez les grands journalistes là, façon que vous connaissez là-bas en France, qui sont même plus des journalistes, des El Kabach, quoi. Il est là. Et il n'a pas. Le chef d'État, enfin le chef, la présidence, le ministère de tutelle a donné toutes les autorisations, les accords, a tout signé. Il faut payer les artistes. Eh bien, les millions sont bloqués sous le coude du directeur général de la CRTV. C'est quand même incroyable. Il faut que tu veux dire, faut voir ces artistes-là, des gens d'un certain âge, qui ont vieilli pour leur passion dans la misère, alors qu'ils sont exploités, grugés. Comment ne pas s'énerver? Bon, malgré tout, ils gardent quand même l'espoir et se disent, bon, ce n'est plus le président Biya, ça ne relève plus de son ressort, ça relève carrément de toute le plan intermédiaire, là, institutionnel, comme je vous disais, qui ne fonctionne pas, qui est bloqué, et eux tous rejettent la faute au président. C'est tellement facile d'être irresponsable, mais en même temps, c'est là où on s'est dit, mais qu'attend le président Biya pour sévir durement? Vous écoutez toujours Flash sur le monde, hein? Il est un peu long aujourd'hui parce que c'est quand même la fin, c'est un premier bilan de la présidentielle au Cameroun. Je suis Élise Mbok, je fais cette émission depuis Yaoundé, le Cameroun. Nous sommes jeudi, j'ai dit quoi? C'était le 18 octobre. Les élections ont eu lieu, pour ceux qui sont perdus, là, le 7, ça fait 11 jours. Nous attendons les résultats et en attendant, on est déjà à la fois dans la pré-présidentielle et probablement dans ce qui a été l'enjeu de cette présidentielle. Donc toujours dans les difficultés comme ça, des gens qui souffrent, deux autres exemples, je pourrais en aligner, mais on va s'arrêter à cela. On a déjà tout ce qui est le logement. Pour vous loger, ce sont les Bamiléké donc qui ont la force économique. Et tout le pouvoir qui va avec, les transports, les bus de transport, c'est eux, tout le commerce, c'est eux, les banques, c'est eux, les immeubles, c'est eux, le bâtiment, c'est eux, les logements, forcément, sont eux qui sont propriétaires de tout, ils louent les logements aux gens. Mais quand vous allez pour un logement, on vous demande un an de loyer d'avance. Bon sang, il faut arrêter ça, c'est de la pure folie. L'accès au logement, c'est devenu, je ne sais pas comment dire, un chemin de croix. C'est pas possible tout cela. Ça complique la vie des gens. Vous vous rendez compte, Ah, non, mais laissez, c'est horrible. Avec quel salaire? Ces gens qui sortent, vous avez donc à la fois ce que j'ai dit pour les enseignants qui vont être parents d'élèves avec des salaires de misère, et puis ce que j'ai dit pour les. Que je vais ajouter pour les personnels de santé. Moi, étant malade, là, j'étais dans un petit centre à Boumyébé, ils appellent centre de santé intégré. Bon, j'étais traité là par quatre filles, et puis on a quatre dames, on a discuté. Elles m'ont dit, oh là là, c'est une catastrophe ici, madame. Nous, on est là, on n'est pas titulaire. Il y a une qui est là depuis, je crois, 2001. Et pas de statut, toujours, c'est un peu des statuts de stagiaire. Stagiaire, parce que vacataire, c'est un grand mot, mais l'hôpital, ce sont, ou le dispensaire, je ne sais pas comment ils appellent ça, ce sont ces femmes-là qui tiennent cet hôpital. Moi, j'ai eu un souci une fois, la fois dernière, parce que une de mes belles-sœurs est rentrée dans ce truc-là, et on n'avait pas très bien compris pourquoi, quand elle disait qu'elle gagnait presque rien, on disait, mais non, tu arrêtes et tout, sinon tu quittes et tout. Oui, mais quitter pour faire quoi à la maison? Il vaut mieux y aller. Au moins on apprend quelque chose, au moins on se sent utile. Après coup, je comprends. Moi, je pensais qu'il y avait quand même une compensation, il n'y en a pas. Elles m'ont dit qu'elles avaient 30 000 francs par mois. Voilà, l'hôpital fait à peu près 600 000 de chiffres par l'hôpital, le petit dispensaire par mois. On leur donne à chacune comme ça, garde-moi 30 000 francs. Ce sont elles qui font le ménage, ce sont elles qui piquent, ce sont elles qui consultent, ce sont elles qui suivent les malades. Elles font tout. Le médecin est juste là pour les grandes opérations et tout. Mais 30 000 francs, 50 euros, 60 euros, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un parent? Mais c'est cruel. Et ce sont des gens qui ont fait des formations, ils sont formés. Auxiliaires, je sais pas quoi, de santé, je sais pas trop. Elles me disent qu'il y a des promotions de 1 000 personnes seulement dans le littoral. Et alors, si on compte l'équivalent dans tout le Cameroun, et lorsque l'État viendra recruter, l'État en demandera 40 dans une nation qui a besoin de santé, mais comme pas possible. Mais c'est carrément la folie, on comprend pas ce qui se passe. Ça fait partie du mécontentement qui tue les gens. Parce que les gens ne vivent pas, ils étouffent. Donc vous avez la santé qui est comme l'éducation. Vous avez le logement qui est une histoire de fou. Vous avez les salaires, eux-mêmes ils savent. Donc du coup, la corruption est obligée de s'étendre parce que c'est ça qui permet de colmater les brèches sans cette corruption-là qui apporte un apport. Pour respirer, ce serait même pas possible. Je crois que le Cameroun aurait déjà explosé. Donc voilà, la corruption arrive comme cela, comme un élément, un mal nécessaire dans ce système-là. On ne peut pas accabler le président Biya plus que cela. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il ne le sait pas? Bon, ce sont des choses connues, tout le monde s'en plaint. Il y a des médias qui ont essayé d'en parler, mais pas plus que cela, parce qu'il vaut mieux ne pas. Vous savez, il y a aussi une forme d'hypocrisie qui guide tous ceux qui ont un peu réussi. Il ne faut pas trop se mouiller, parce qu'après, bon, c'est vrai que le peuple est ingrat, je n'ai rien à dire. Là-dessus, sur ce mécontentement, qu'est-ce qui se passe? On va terminer, parce que nous sommes en plein là-dedans. Donc, je voulais vous montrer tout le contexte dans lequel s'inscrit cette présidentielle. Il se passe que on a ce qu'on appelait des opposants politiques, qui sont tout simplement des opportunistes, dans ce sens qu'ils exploitent ce mécontentement de manière très vile. Tous autant qu'ils sont, à l'exception de deux, je sais pas, Gargaman et Bello Bouba, ce ne sont pas des politiques. Ce sont des gens qui vivaient leur vie d'universitaire, d'avocat, ils étaient en marge pratiquement. Bon, ils ne faisaient pas de politique, ils n'ont rien fait de politiquement significatif. Mais comme il y a ce mécontentement, on en profite pour monter un parti vite fait, des partis vite fait comme ça, parce qu'on sait qu'on va surfer sur ce mécontentement et que ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens, donc, comme je vous ai décrit là, sont désespérés, désemparés. Ils sont prêts à se jeter effectivement dans les bras du premier venu qui va leur raconter une belle aventure. Moi, je, moi, je, moi, je. Et pourquoi pas? Parce que ils sont déjà dans un stade qu'on appelle la survie. Comment survivre? Il faut bien trouver l'espoir. Vous savez, on dit que l'espoir fait vivre. Alors, on se jette dans les bras du premier passant, du premier voyou politique qui est là. Commençons par l'ordre, chacun avec son public. Hein. Cabral Libi, un petit jeune de 39 ans, là, Macron, vous savez, on a raconté toute une histoire pour faire croire que c'était Macron. Macron, lui et moi, c'est pas ma tasse de thé, moi non plus, et vice-versa. Mais Macron, moi, c'est quelqu'un qui avait un parcours, je ne vais pas dire financier, financier certainement, j'allais dire politique, mais bon, présentable, acceptable. Cabral Libi, c'est tout sauf un Macron. C'est quelqu'un qui, déjà, les diplômes, vous savez, les diplômes africains, il faut les regarder de très loin, surtout au Cameroun, c'est tout très compliqué. C'est pas un niveau, en tout cas. Et ensuite, politiquement inexistant. Et puis, c'est un journaliste, vous voyez, qui, bon, voilà, il y avait des choses à dire, sciences de l'information et l'éducation, mais tout et rien. Et bon, voilà, il a porté la contradiction apparemment au ministre de l'information. Et puis, il est devenu une star. Et puis, une star, c'est comme les sportifs. Après, bon, tu peux devenir président. Le fait qu'il soit jeune, pauvre, comme on dit, n'ayant rien, a fait que tous ceux qui sont jeunes, à la rue, pauvres, illettrés, se sont identifiés à lui. Donc il avait cette base-là, doublée du fait que il est Bassa. Les Bassa revendiquent une forme de, comment je vais dire, de primauté à l'accès au pouvoir parce que Oumiobé, le père de la nation, était Bassa. Donc, puisqu'il n'a pas pu exercer, du coup, les Bassa ont une revanche à prendre. Le pouvoir leur reviendrait de droit tôt ou tard. Donc, il avait ces deux publics, les Bassa d'un côté, une partie. Et surtout les illettrés, les gars à la rue, les chômeurs, les jeunes désespérés qui voient plus rien, beaucoup de mécontents, ils étaient là. Mais derrière aussi Cabral Ibi, il y a beaucoup de gens qui se rêvent. Vous savez, la télé aujourd'hui, ça donne l'illusion que tu peux partir des zéros pour devenir l'infini. Donc tout un mythe qui alimente les rêves des gens. Ensuite, vous aviez ceux de Camteau, c'est alors des gens qui sont là depuis, vous savez, la classe moyenne qui aussi est gris parce que y a les touffoirs d'en haut qui les empêchent d'être ce qu'ils veulent être. Et comme tout se résume en Afrique à quelque chose de simple, j'ai les diplômes et puis je vais faire la politique. C'est tellement basique, c'est bête. Et puis chez les Bamlik, on leur reproche le fait de toujours tout vouloir. Ils ont le pouvoir financier, ça suffit pas. Comme je vous ai dit, il faut encore qu'ils aient le pouvoir politique. Mais ça, on peut le dire ici. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe à l'international. À l'international, c'est exactement pareil. Ce sont les banques qui font les lobbies pour corrompre les sénateurs aux États-Unis. Donc, le gars, il commence par la politique, par l'économique, pardon, par les finances, le profil Macron. Et il finit par vouloir écraser tout le monde avec le politique. Donc, le Macron camerounais, finalement, ce n'est même pas Libye, c'est Monsieur Camteau. Les gens qui ont le pouvoir économique, enfin qui appartiennent à ceux qui ont le groupe politique, le groupe social qui a le pouvoir économique et qui après veut avoir le pouvoir politique pour tout avoir, le pouvoir total. Et curieusement, c'est quelqu'un comme lui qui est dans cette logique-là de pouvoir total qui critique le président Biya d'être un dictateur et un totalitaire, enfin totalitariste, comment on dit ça. Ça c'est comme il a allé voir les gars de Libé, toute la presse fake là française qui fait partie de la même mouvance qui a mis en place tout le pouvoir dictatorial du monde, qui vont rigoler sur le président Biya alors que eux ils sont pires. Alors, nous sommes là dans un processus de présidentiel à front renversé. Donc, bon, voilà, chacun avait ses. Je ne parle pas de Monsieur Hakirimouna qui avait les désespérés. Il pensait, il les avait pas d'ailleurs. Il avait les désespérés du SDF qui avait gagné apparemment les élections une fois en 1992. On avait disqualifié parce que effectivement le gars qui était Monsieur Fondi n'avait alors presque zéro compétence. Et voilà, un aventurier. Quand le peuple souffre beaucoup. Les aventuriers sont là. Qu'est-ce qui se passe pour le Cameroun? C'est que dans l'opposition, il n'y avait personne qui avait un profil politique. Ils arrivent tous. Je veux dire, si c'était en Occident, jamais aucun d'eux ne pourrait passer. D'abord, la tradition parti politique au Cameroun est très récente. Ça n'a pas de valeur. C'est un peu des grandes ONG comme ça qui ont mûri comme cela. D'ailleurs, le candidat Libi, Cabral Libi, lui, il n'a même pas de parti politique. Il n'appartient pas au parti politique pour lequel il était candidat. Voilà, les gens font un parti politique puis se rendent compte qu'ils n'ont pas de candidat. Alors, ils vont chercher quelqu'un et lui disent tu peux venir, viens concourir pour nous. C'était vraiment toute une mascarade. Du coup, on n'a pas de profil politique au sens fort du terme, ni en France, ni aux États-Unis, ce genre de profil ne pourrait passer. Pas de primaire, pas d'expérience politique, pas même de parti politique vraiment identifié. La preuve, ils n'avaient aucune couverture nationale, ils viennent causer, ils parlent de PV, Monsieur Camteau, il y a eu des bureaux de vote, il n'y avait même pas de scrutateur parce qu'il n'a pas de présence là-bas. C'est tout, aussi simple que cela. Tout ce mercenariat politique, ces gens qui sont arrivés, fait que on a la situation qu'on a, le Cameroun peut basculer parce que Monsieur Camteau, s'il n'est pas déclaré vainqueur, il appelle à ce que à l'insurrection, hein, que les gens aient dans la rue pour se faire tuer, je ne sais pas pourquoi. La communauté nationale a voulu se mêler, mais vous savez, quand vous voyez la communauté nationale, vous savez déjà qu'elle est de parti pris. Il faut éviter. Et nous vivons une époque comme celle-ci. Monsieur Biya n'avait pas besoin de tricher, il a gagné l'élection parce qu'il avait une meilleure couverture nationale, c'est aussi simple que cela, et l'opposition est tout sauf une opposition politique. Monsieur Biya, Il a beau avoir fait 36 ans, mais ça, c'est le problème, j'allais dire, des Camerounais. Et c'est le problème du Cameroun, je vous explique le contexte. Et nous attendons les résultats. Dès que les résultats seront déclarés, on verra ce que les mercenaires politiques de l'opposition feront. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. C'était Flash sur le Monde. Je suis Mbokélise. Cette émission vous a été présentée depuis Yaoundé ce jeudi 18 octobre.